Je sais que ça prend deux fois plus de temps quand on doit traduire de l'anglais en français. Et j'aimerais parler beaucoup plus rapidement. J'aimerais dire beaucoup plus. Mais on va travailler avec ce qu'on a. Donc Dieu peut commencer quelque chose et mettre ça en place comme il a fait avec la loi et le remplacer par la grâce. Je ne regarde pas le prophétique comme de ce que nous sommes venus, d'où nous sommes venus comme quelque chose de mauvais. C'est ce que nous avons eu à l'époque. Et nous sommes en train d'apprendre plus. Et tout pasteur ici doit être en train d'apprendre plus. Et si tu penses que tu as tout entendu et que tu connais tout, tu n'es pas qualifié de diriger. Parce que nous sommes tous en train d'apprendre plus. Nous sommes tous en train d'apprendre plus. Maintenant, ça, c'est une déclaration du docteur Woodruff. La réforme consiste de créer une plateforme des nouvelles mentalités, des nouvelles perceptions du monde qui ne sortent pas des anciennes mentalités ou des systèmes d'opération de l'Église. Donc, la réforme apostolique amène des nouvelles idées et des nouvelles pensées. De la même manière que la réforme de Luther a amené des nouvelles pensées dans le système catholique. De la même manière que le mouvement de sainteté a amené des nouvelles pensées dans le mouvement maintenant des protestants. De la même manière que le mouvement pentecôtiste a amené de nouvelles pensées, de nouvelles façons de voir dans le mouvement de sainteté et évangéliste. Et vous me dites, Steve, tu as parlé du fait que tu allais parler sur les définisseurs. Et laissez-moi juste vous montrer ce diapo et puis on va aller là. Parce que j'aimerais définir c'est quoi un définisseur. Qu'est-ce qui permet cette chose d'avancer? Et on utilise cette image beaucoup dans notre monde pour décrire les choses. Parce que des fois, les images permettent d'illustrer vraiment les principes divins. On appelle ça le principe de l'iceberg. Parce que la plupart des gens ne voient que cette partie-là de l'iceberg. Mais quand on regarde l'iceberg, la majorité ou bien la plupart de cet iceberg est sous l'eau. Et on appelle ça les 90 qui sont cachés. Donc il y a un dixième qui est vu. Et il y a 9/10 qui n'est pas vu à moins de plonger, d'aller dans l'eau. Et je vais appliquer ça au prophétique. Et ça, ce sont les opérations évidentes du prophétique. C'est ça qu'on voit. Donc, si vous devez regarder et vous vous asseyez dans une réunion où il y a l'expression de la nouvelle dimension prophétique et que vous avez déjà eu l'expérience avec le prophétique dans le passé, vous allez peut-être vous dire, moi, je ne vois pas de différence. Je vous vois imposer les mains sur les gens. Vous prophétisez sur les gens. Il y a eu un temps d'adoration. Ça ressemble à ce que j'ai déjà vu il y a 20 ans en arrière. Oui, c'est vrai. Les opérations externes ont l'air d'être la même chose. Mais ce qui a changé, c'est ça. Ça, c'est les choses qui ne sont pas visibles. C'est les philosophies qui consistent de vos mentalités, de vos positions de cœur, vos motivations. Et c'est ça que nous appelons les définisseurs. Je prophétise toujours. Je prophétise toujours d'une certaine manière, comme je l'ai fait il y a 20-25 ans en arrière. Mais je me tiens sur une nouvelle plateforme. Ma philosophie est différente. Mes motivations sont différentes. Maintenant, la position de mon cœur a été changée. Et c'est ça qui constitue en fait la réforme. Et beaucoup de gens disent, ah, vous enseignez vraiment sur cette réforme apostolique. Et qu'est-ce que vous faites dans vos églises? Parce qu'ils trouvent que c'est bizarre. on fait des annonces, on prend une offrande, on fait de l'adoration, on lève nos mains, on enseigne la parole, on fait la même chose. Mais ce qui est différent, c'est cette partie-là. C'est les mentalités, les philosophies. Donc, quand vous entendez le terme, ne pensez pas à des changements externes drastiques ou bien assez graves. Parce que Jésus a dit, nettoie d'abord l'intérieur de la tasse avant de nettoyer l'extérieur. Parce qu'une fois que tu nettoies l'intérieur, certains de vos opérations externes, certains vont changer. Et Hébreux 8, 10 dit, je mettrai ma loi dans leurs pensées et je vais écrire cette loi aussi sur leur cœur. Donc la réforme apostolique commence toujours d'abord dans le cœur et dans les pensées. Ça veut dire que si tu n'as pas un cœur qui est enseignable et si tes pensées ne sont pas ouvertes, la réforme apostolique va venir et va te traverser. Donc il faut venir à Dieu comme un enfant. C'est comme un pasteur qui m'a dit il y a quelques mois en arrière. J'allais enseigner une série d'enseignements sur l'apostolique. Et il est venu vers moi. Et il a mis son doigt devant mon visage. Et d'une manière, amicale. Il a dit, non, moi je connais l'apostolique. Et en fait, ce qu'il me disait, c'était ça. Il disait, je ne suis pas enseignable. Je connais tout. Et tu n'as rien à m'offrir. Mais non, je sais ce que lui connaissait et il ne connaissait pas ce que moi je connaissais. Mais avec ce genre d'esprit, je ne pouvais rien enseigner. Parce que dans l'esprit, son cœur est comme ça. Tout le monde sait de quoi je parle. Hein? Et maintenant, aujourd'hui, il n'est même plus dans le ministère. Et j'étais en train de partager ça hier soir. Et en fait, on a découvert en fait qu'il y avait, il fréquentait plusieurs prostituées. Pour quelqu'un qui connaissait l'apostolique, il y a quelque chose qui n'avait pas été bâti. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que l'apostolique fait de toi un meilleur être humain. Et en fait, la grâce apostolique nettoie ta vie intérieure. Parce que l'apostolique, elle traite avec les mentalités, les positions de cœur, les motivations humaines. Et ça t'amène plus dans l'exactitude et dans l'alignement correct. Et il y a beaucoup de gens qui ont des cartes de visite qui disent « Je suis un apôtre ». Et il ne faut pas croire la moitié de ce que vous entendez. Et ne croyez en rien de ce que vous pouvez voir. Il faut entendre Dieu ici. Moi, je suis un pasteur. Les gens viennent me parler tout le temps. Moi, je vois leur bouche qui bouge. Mais je n'écoute pas en fait leur bouche. J'écoute en fait ce que Dieu dit. Et les pasteurs, vous savez de quoi je parle. Parce que les gens vont vous mentir du matin jusqu'au soir. Et ils vont le faire avec beaucoup de sincérité. Et ils disent, je te dis la vérité. Et le Saint-Esprit dit, non, ils sont en train de mentir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui portent des cartes de visite qui disent, je suis apôtre. Et nous avons un réseau apostolique, frère. Il ne faut pas juste croire à tout ce que vous entendez. Il faut essayer, il faut tester les esprits. J'ai été dans beaucoup de réseaux apostoliques. Certains qui sont pas mal, certains qui sont horribles. Pas de ressources, pas de grâce. Ah, ils peuvent rassembler des églises. Nous ne rassemblons pas des églises. Nous ne collectons pas des églises et vous ne pouvez pas faire partie de notre monde à moins que ce soit Dieu lui-même qui vous mette dans notre monde. Donc on n'est pas là en train de faire entrer tout le monde qu'on peut faire entrer. Il faut trouver en fait ta place en Dieu. C'est comme un puzzle, il faut trouver ta place exacte où tu dois exister. Et si les gens ne rentrent pas dans notre monde, voici ce que on leur dit. S'il vous plaît, trouvez votre place en Dieu. Parce qu'il faut que son corps soit bâti correctement. Et si tu ne rentres pas ici, mais que tu rentres ici, alors mais va là-bas, là où tu es, là où il y a ta place. Et ça, c'est un processus de découverte. Tout le monde comprend ça? Maintenant, je vais vous donner sept points. Ça, c'est un séminaire de 2 jours. Je vais peut-être faire juste un seul. Et je vais maintenant vous parler de quel est le définisseur qui fait avancer le prophétique aujourd'hui. Et maintenant, les pasteurs, en sortant d'ici, vous devez être maintenant beaucoup plus aptes à discerner qui sont ces gens qui s'appellent prophètes et qui sont vraiment. Et en fait, le défi, c'est que je suis juste en train de toucher à la surface. En fait, je devrais avoir toute une semaine juste pour parler sur le prophétique. Parce que j'ai vu le bon, le mauvais et le terrible. Et je vais maintenant vous donner 7 définisseurs du prophétique. Ce sont des positions internes. Premièrement, il y a une poussée prononcée pour bâtir. Et ça, c'est à l'opposé maintenant de cette poussée prononcée de « bénis-moi ». Deuxièmement, bien que la parole est proclamée sur des individus, c'est toujours donné dans un contexte collectif ou communautaire. Troisièmement, le prophétique fonctionne maintenant au sein d'un leadership fort gouvernement et dans un environnement gouverné. Et ça, c'est l'opposé de ce que je vous ai décrit par rapport à mon ami qui voyage et qui fait des activités partout et son apôtre n'est même pas au courant de ce qu'il fait. Donc, ils peuvent dire qu'ils ont un réseau apostolique. Oui, nous voyageons à travers la terre avec nos prophètes, mais il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas d'activité de bâtir. Quatrièmement, le prophétique aujourd'hui est stratégique et le prophétique est aussi long terme. Et on est en train de penser dans le temps. Pas d'une bénédiction d'aujourd'hui. Ou bien, dis-moi que je vais recevoir une nouvelle voiture. Et dis-moi, est-ce que je vais avoir une nouvelle maison? On est en train de regarder 5, 10, 15 ans. Et c'est stratégique et c'est long terme. Maintenant, le prophétique aujourd'hui est holistique. Donc, ça traite avec tout l'être humain. Il ne s'agit pas seulement de ton ministère, ou bien de ton appel, que ce soit les affaires, que ce soit l'église. Maintenant, le prophétique traite avec tout l'être humain. Et en fait, la fréquence est très élargie. Et moi, je suis venu de dimension prophétique où c'était plus axé sur la bénédiction, sur ce que Dieu allait te donner. Et la plupart des choses que nous voyons dans la télévision américaine, et moi je ne regarde même plus la télévision américaine, avant je le faisais, et j'ai été réformé. Et en fait, la plupart de ce qu'on voit à la télé, là, c'est juste orienté vers le bénis-moi. Et tu envoies l'argent au prophète. J'étais dans des réunions où le prophète a dit, ça c'est la ligne de 50, la ligne de 100, la ligne de $200. Et j'ai vu tout genre d'abus. Est-ce que vous avez déjà vu certaines de ces choses là? je peux le dire. Ouais, ça c'est l'arrière-plan pentecôtiste, on voit ces choses là. Et numéro 6. Et en fait, ça c'est un séminaire de 2 jours, je vous donne juste les points là. Et numéro 6, c'est que le prophétique parle maintenant d'une compréhension claire de l'éthique du royaume et les principes du royaume. Donc, les prophètes doivent être entraînés dans les principes du royaume. Ils doivent comprendre, en fait, le code éthique, le code moral de Dieu. Et si tu vas prophétiser pour l'argent, tu es déjà Balaam, tu es déjà un faux prophète. Et numéro 7, Et le prophétique maintenant aujourd'hui est basé sur une plus grande vue de notre mouvement vers la fin. Parce que donc les prophètes doivent être au courant de ce que Dieu fait sur la terre aujourd'hui. Et je le vois avec beaucoup de pasteurs à travers toute la terre en dehors de notre monde. Et des fois, ils posent souvent la mauvaise question pour commencer. Et ils disent, qu'est-ce que je dois faire ici? Qu'est-ce que je dois faire là-bas? Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu penses que je devrais faire ça par rapport à ce que l'autre église fait là-bas? Et là, je leur réponds souvent en leur disant, en fait, tu poses la question d'un mauvais endroit. Ton point de départ, c'est de se poser la question, qu'est-ce que Dieu est en train de faire sur la terre aujourd'hui? Et j'ai entendu un homme me dire, il y a quelques années en arrière, il a dit, va te renseigner sur ce que Dieu est en train de faire dans ta génération et jette-toi dedans. Je ne veux pas me jeter dans ce que Dieu il a fait il y a 10 ans ou il y a 20 ans, mais en fait, l'élan a augmenté vers la fin. Et je vous dis, ce qu'on faisait il y a 20 ans n'entre plus en matière dans ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Et en fait, la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que mon église est pertinente dans cette génération par rapport à ce que Dieu fait sur la terre aujourd'hui? Et en fait, il y a 20 ans en arrière, on n'avait pas le terrorisme. Et les crises que nous avons aujourd'hui n'existaient même pas il y a 20 ans en arrière. Le monde a changé. Et je vais juste faire un seul définisseur. Alors, on va retourner vers le premier définisseur. Vous êtes toujours avec moi? Je vois que tu prends des notes. C'est bien. Tu prends des notes aussi. Hein? Ce n'est pas pour le message de dimanche prochain. Hein? Je sais comment les pasteurs y sont. Je sais comment les pasteurs y fonctionnent. En fait, tu veux l'œuf doré, mais tu ne veux pas la poule. Donc, il ne faut jamais oublier, en fait, la seule chose qui t'autorise à le prêcher, c'est si tu l'as bâti. Et tu ne peux pas exporter ce que tu ne produis pas. Et ça, c'est ça qui te permet de ralentir, en fait, ton élan. Et on a des gens qui viennent à travers de toutes les nations pour venir s'asseoir dans nos réunions. Et je ne parle pas de vous ici. Et on a des gens qui viennent et qui écrivent tout. Et en fait, ce qu'ils sont en train de rechercher, c'est des enseignements pour les 6 prochains mois dans leur église. Ah, ça, c'est vraiment du bon. Je vais même commencer dimanche prochain. Et je vais maintenant être comme une célébrité. Et je vais être le meilleur pasteur dans la ville. Et ceux qui ne savent pas, c'est qu'ils vont maintenant produire le plus grand pharisien qui n'a jamais existé. Donc, il n'y a pas de pharisien en France, n'est-ce pas? Donc, on est d'accord. Donc, on va retourner vers ce définisseur-là. Une poussée vers le fait de bâtir. Mais non, les Écritures sont maintenant la fondation sur laquelle nous donnons cette révélation. Parce que le prophétique maintenant est rentré beaucoup plus dans un élan de bâtir. Et en fait, Ezra représente un exemple parfait des prophètes qui marchent, qui travaillent avec des anciens ou avec des leaders. Donc, je vais lire ça. Donc, les anciens des Juifs ont bâti et ils ont prospéré à travers les prophéties de Hagé et le prophète Zacharie. Donc, les prophètes qui représentent la voix de Dieu sont essentiels dans le fait de bâtir avec exactitude pour Dieu. Et donc, chaque église doit être en relation avec une ressource apostolique. Et Et chaque ressource apostolique doit être liée à une ressource prophétique pour permettre qu'il y ait une bonne fondation. Ça, c'est ce que je crois. C'est ce que je vois dans les Écritures. Donc, je n'ai pas besoin de l'opinion de qui que ce soit. Et si tu dois venir me montrer que j'ai tort, montre-moi dans les Écritures. Mais c'est très clair dans le Nouveau Testament que les prophètes et les apôtres ont posé les fondements. Et il y a toujours des apôtres aujourd'hui, ils ne sont pas morts. Et il y a toujours des prophètes aujourd'hui, ils ne sont pas morts, ils existent toujours sur la terre. Donc vous avez vu, c'est les anciens qui ont bâti. Et vous pouvez mettre votre nom là en tant que pasteur. Je suis en train de bâtir mon église. Mais ils ont aussi prospéré à travers la déclaration des paroles de Agée et du prophète Zacharie. Donc les prophètes ont participé à ce processus de bâtir. Et on doit tous admettre en fait que dans le fait de bâtir, c'est un trait même de Dieu. Parce que Jésus, il a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, je bénirai mon église. Donc en fait, le prophétique en tant que ministère de bénédiction, ça c'est fini. Le prophétique doit être lié à l'apostolique. Et maintenant, ça devient un outil de construction. Ce n'est pas un endroit où tu vas maintenant profiler ton don ou ton talent ou bien avoir un ministère international. C'est mourir à soi et de te connecter à une source et une autorité apostolique en disant maintenant, allons bâtir. Et c'est ça la vraie dimension prophétique. Et ici, le psaume 127, à moins que le Seigneur bâtisse, à moins que le Seigneur bâtisse la maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Je vais juste retourner en arrière, regardez ça. Ce mot-là, prospérer, ça n'a rien à voir avec l'argent. Parce que le mot original en hébreu veut dire ceci. Et le mot prospérer veut dire aller de l'avant, in advance. Hein. Alors, le mot veut dire aller de l'avant. Ça veut dire voyage. Ça veut dire mouvement. Ça veut dire te prendre de là où tu es ici et te t'amener vers là. Donc toute dimension prophétique qui touche ton église doit te bouger de là vers là. Donc il y a une déclaration, mais il doit aussi y avoir une implémentation. Donc tu entends la parole, tu écris cette parole, et tu regardes et tu pries sur cette parole. Et à l'intérieur de cette parole, il y a la stratégie, il y a une nouvelle perspective. Et la première chose que Dieu traite avec, c'est le cœur. Et il commence à parler dans le cœur de l'ancien, du pasteur. Et il commence à changer le cœur du pasteur. Et quand il change le cœur du pasteur, là maintenant, il peut changer le cœur du peuple. Donc ça commence toujours avec le leadership, avant même que ça arrive vers le peuple. Une autre écriture, Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église. Et... Notez bien. Quand Jésus est là en train de le bâtir, et vous rappelez que quand on parle de Jésus, ici c'est représenté par les cinq ministères. Maintenant, notez, quand tu bâtis correctement, les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir. Mais de l'autre côté, si tu ne bâtis pas correctement, les portes de l'enfer ont tout leur droit de pouvoir t'envahir. Donc le prophétique et l'apostolique garantissent le fait que tu bâtis selon le modèle correct. Et le mot ici, je bâtirai, Et le mot ici veut dire construire ou bâtir quelque chose selon un modèle ou selon l'architecture. Donc, le fait de bâtir, c'est quelque chose de stratégique. Ça veut dire que c'est précepte sur précepte. C'est précepte sur précepte. Et dans Éphésiens 4, 12. Et donc, j'utilise juste le mot bâtir, bâtir. Donc, pour préparer le peuple de Dieu pour les œuvres de service, afin que le corps de Christ puisse être bâti. Maintenant, notez bien, est-ce que le corps de Christ est bâti en bas ou bâti en haut? Parce que le royaume ne cesse de croître. Dans l'économie de Dieu, il n'y a pas de marche arrière, on ne va pas en arrière. Par exemple, je pourrais dire que l'année prochaine, Bruno ne doit pas être le même homme qu'il est aujourd'hui. Si je reviens ici l'année prochaine et que je parle à son épouse et je lui demande, est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il est un meilleur mari? Est-ce qu'il est un meilleur homme? Est-ce que c'est un meilleur homme de Dieu? Elle devrait dire Amen. Oui, il est en train de changer. Il est en train de grandir. Il est en train d'être plus mature. Vous êtes tous d'accord avec ça? Et voilà ce qu'apporte le royaume. Parce que le royaume ne cesse d'augmenter et de croître. Et ne cesse d'ascender. C'est pour ça qu'on a dit que Jésus est ascendé dans les nuages. C'est pour ça que Dieu résidait en haut au sommet de la montagne. Les Écritures ne disent jamais qu'il faut aller dans la vallée pour trouver Dieu. Parce que le prophétique t'amène sur la montagne. De la même manière que ça a été décrit dans l'Ancien Testament. Parce que la voix de Dieu te tire vers le haut. Ça ne t'amène jamais vers le bas. Mais non. Et dans 1 Corinthiens 3, 9, vous êtes le bâtiment de Dieu. Yep. Hein? Les quoi? Vous êtes une habitation de Dieu. Merci. Donc je suis juste en train de mettre l'emphase sur le mot bâtir, bâtir, bâtir. Donc je ne parle pas le fait d'avoir un prophète dans votre église que vous ne connaissez même pas, ou bien que vous le connaissez, mais il amène juste un don. Il va prophétiser à certaines personnes, et tout le monde est excité, tout le monde applaudit, wouh! Mais quand il part, il n'y a rien qui est bâti. Il n'y a pas de connectivité au niveau relationnel, il n'y a pas une stratégie apostolique, tout reste pareil. Alors, c'est quoi une mentalité de bénédiction? Alors, laissez-moi vous décrire ce que représente une mentalité de bénédiction. Donc, c'est le fait de recevoir quelques ressources de Dieu, mais ne pas l'utiliser pour construire ou bien pour bâtir Christ, la ressemblance à Christ au sein du peuple ou bien au sein des structures plus élargies. Donc, la mentalité de bénédiction, c'est que nous voyons un don en opération. Et peut-être la parole est même exacte, elle est correcte. Mais en tant que leadership, si on ne peut pas bâtir ça et être stratégique dans la manière de bâtir ça, les gens vont être bénis. Ils vont dire, j'ai reçu ma parole, mais il n'y a rien qui va changer. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai été dans plusieurs églises. Et j'ai suivi d'autres prophètes dans ces mêmes églises. Et quand tu t'en renseignes sur ce qui s'est passé dans la dernière réunion, le leadership n'a pas changé, le pasteur n'a pas changé, les anciens n'ont pas changé, les leaders secondaires n'ont pas changé, et en fait les choses sont restées pareilles. C'est quoi une bénédiction? Numéro 2, ça élève une expérience dans l'immédiat au-dessus d'un processus de développement. Parce que la plupart des églises sont maintenant motivées par le fait d'avoir une grande expérience. Parce que les pasteurs bâtissent leur église sur une expérience au lieu de bâtir sur un processus. Mais non, un processus, ça prend du temps. Dans notre monde, disons ceci. Slow is fast. Le flow est rapide. Rapid is like fast. In French, you can also say rapide. Uh-huh. Yeah. That's Spanish, yeah. No. Rapide. C'est un sens? Donc le prophétique n'est pas juste d'avoir une grande réunion. Il s'agit d'avoir une ressource qui rentre dans ton église. Et ça, peut-être ça va prendre 5 ans pour juste prendre et ouvrir tout ce que Dieu a livré. Donc nous sommes toujours en train de chercher la prochaine expérience et nous ne cherchons pas forcément à grandir en Christ. Et je ne dis pas ça par rapport à vous. Moi, je ne vous connais pas. Je fais juste des déclarations générales. Tout le monde comprend. Et parce que vous pouvez dire, non, moi, je ne pense pas comme ça. J'espère que vous pensez comme nous, on pense. Parce que ça veut dire que vous êtes en train de réfléchir à la manière du royaume. Et si vous êtes sorti de ce que moi, j'appelle l'ancien paradigme pastoral, et parce que la plupart de l'église aujourd'hui est toujours accrochée à l'ancien. C'est la grandeur de ton église, la taille de ton église, combien de personnes que tu as qui viennent. Et en fait, tous les systèmes de valeurs sont mélangés même avec Babylone. C'est quoi une bénédiction? La bénédiction, elle met l'emphase sur le fait de recevoir de manière passive au lieu de mettre l'emphase sur la responsabilité personnelle. Donc tu amènes un prophète, il appelle un gaillard, il dit, mets-toi debout, je te donne une parole de la part de Dieu. Brrr, il donne une parole, et le gars il dit, oh, alors j'ai reçu ma parole, il rentre à la maison, et c'est la fin. Ça, c'est vraiment une réception passive. Quand est-ce que je vais recevoir ma parole? Je veux ma parole. Ah, reçu. Mais non, c'est le travail ou la responsabilité du leader de se rassurer que les gens prennent la responsabilité personnelle. Par exemple, se rassurer que chaque personne, alors qu'ils reçoivent la parole prophétique, qu'ils écrivent cette parole. Et qu'après, ils puissent donner cette parole à leur leadership. Et ensuite, dans le leadership, va s'asseoir avec cette personne. Et ensemble, ils vont discuter en disant, découvrons maintenant ce que Dieu était en train de dire. Ça a un sens? Maintenant, la plupart des églises que j'ai fréquentées ne font pas ça. Il s'agit plus d'avoir une réunion à succès que d'avoir un processus rempli de succès en Dieu. Il y a un qui est plus lent, mais ça va t'amener là-bas plus rapidement. Et la plupart du temps, les pasteurs, ils ont cette inclinaison d'avoir quelque chose de très grandiose. Ce n'est pas la taille du conteneur, c'est ce qui se trouve dans le conteneur. De pouvoir bouger les choses dans l'esprit, tu ne dois pas avoir une grande église. Ce que le diable n'aime pas, c'est des gens qui bâtissent avec exactitude. C'est ça qu'il respecte. Tu peux crier, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux danser, et tu peux même prier. Mais ce qui attire son attention, c'est quand tu bâtis avec exactitude. C'est pour ça que Jésus l'a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer. Il n'a pas dit, je prierai mon église. Mais non, prier fait partie de bâtir. Mais le fait de prier seul ne va pas te permettre d'arriver là-bas. Il doit avoir la prière et une activité correcte. Et ça, et la mentalité de bénédiction, ça réduit le sens de partenariat que les gens ont avec le Seigneur. Et ça le rend dépendant de leur leader de manière malsain. Voilà. OK. Alors, je décris tout simplement ce que c'est que la mentalité de bénédiction. Et ça, ça existe partout à travers la terre. C'est ici même en France. Et donc, ça mesure la validité par ce qui peut être vu. Donc, si la parole, elle est juste, tout le monde dit, ah, tu dois être un prophète, un grand prophète. Donc, la mesure, c'est par rapport à ce qui est vu et par rapport à ce qui est entendu. Ou bien ça va être par un signe, un prodige ou bien un miracle. Mais ce que nous voulons un développement massif à l'intérieur qui n'est pas visible à l'œil nu. Donc, on vous a donné cette écriture plus tôt, qu'il faut nettoyer l'intérieur du gobelet. Et le modèle de bénédiction met l'emphase sur le don. Au lieu de mettre l'emphase la nature de celui qui t'a donné le don. Et donc nous, on a mis nos prophètes, mais vous pouvez mettre aussi. Si vous avez des relations avec des prophètes, vous pouvez les mettre aussi là. Ils doivent réfléchir de manière architecturale. Ils doivent connaître la forme d'une vue individuelle. Ils doivent connaître la forme de la vie de mariage et de famille. Ils doivent connaître la forme en fait de l'église locale et la communauté du royaume. Et ils doivent connaître en fait des choses comme la connectivité et l'emplacement dans le corps de Christ. Et là, je vous donne juste des ressources pour que vous puissiez considérer à quoi ressemble ma relation avec le prophétique. Et si j'avais le temps, je vous aurais demandé à chacun, parle-moi du prophétique dans ton église, parle-moi du prophétique dans l'église. Mais ça, ce n'est pas un message de prédication, on va dire. Ça, c'est ce qui t'équipe pour que tu sois un leader rempli de plus de discernement. Ça veut dire que la question que tu dois te poser, c'est à quoi ressemble le prophétique dans mon église? Comment est-ce que le prophétique est délivré ou bien distribué dans ma communauté? Pas seulement la parole de Dieu, mais comment est-ce que le peuple devient plus prophétique? Et dans notre monde, c'est de prendre le prophétique, c'est prendre ce qui est sur le prophète et le mettre sur le peuple. Ça, c'est la maturité. Donc, pour l'application pour les anciens titulaires, la connectivité apostolique, ça veut dire que tu reçois la grâce pour bâtir. Et c'est une exigence primaire pour bâtir correctement une église, une communauté. Nous, on les appelle les communautés du royaume. On peut l'appeler église, ecclésia. Donc, les leaders doivent être capables d'avoir la capacité d'être architectural dans la considération de leur communauté. Donc, ne laissez pas le mot architecture vous détracter. Parce qu'en fait, l'architecture n'est rien d'autre que juste le dessin correct. Tout le monde doit connaître exactement quel est le dessein. Donc, on doit penser au développement de la vie et non seulement au prochain message de dimanche. Donc, ça vous donne juste quelques pointeurs, quelques éléments là. Et je pense que je vais juste m'arrêter là. Et ça, c'est juste un des définisseurs et j'ai vraiment raccourci ça. Et il y a beaucoup plus de choses que j'aurais pu mettre là, mais que je n'ai pas dit, mais ça vous donne juste une idée. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est entendre de vous. Qu'est-ce que vous avez entendu? Quelle a été votre expérience dans le prophétique? Est-ce que vous rendez témoignage à ça? Est-ce que ça, c'est réel? Est-ce que vous savez à quoi ressemble l'ancien ordre? Est-ce que ceci vous a défié? Vous êtes des leaders. Donc, parlez-moi. Personne ne va rester tranquille. Est-ce que vous connaissez déjà tout ça? Est-ce que vous connaissez déjà tous les sept définisseurs? Est-ce qu'il y a-t-il une nouvelle perception que vous avez reçue? Alors, je pose juste la question. Parce que je vais avoir un peu un retour. Parce que quand vous parlez, nous apprenons tous. Parce que les Écritures disent, nous avons la pensée de Christ. Parce que des fois, une question ou un commentaire ouvre en fait toute une porte sur des choses que nous pouvons discuter. Alors, ayons quelques commentaires. Donc ça, ce n'est pas le moment où tu es assis et tu regardes. C'est maintenant le moment où on participe, on est engagé ensemble. Alors, qui a une pensée? Every week, the Lord speaks and He gives words to every church, and we're happy to receive. But there's no fruit behind the words that are given that we see in the lives of the people.
Mm-hmm. Now, let me ask a question. When he says the Lord speaks, does that mean through the message that's taught?
Maintenant, la question que je pose, c'est quand tu dis, par exemple, que le Seigneur parle, est-ce que c'est à travers le message qui est donné ou est-ce que c'est dans un autre contexte? À travers le message du pasteur? À travers... À part la parole prophétique? Ok, non, about... Prophecies, yes. Maintenant, si j'étais dans cette église, je vais d'abord évaluer qui prophétise. Parce que la Bible dit que vous puissiez tous prophétiser. La Bible dit l'un après l'autre, que tous puissent apprendre et que tous puissent être confortés. Donc il y a une prophétie générale qui est pour encourager, pour conforter et pour donner un peu plus de vue. Ça, c'est un niveau général de prophétie, on va dire, qui est approprié pour une réunion publique. Maintenant, nous sommes en train de parler d'un niveau plus profond du prophétique. Donc, la chose que moi, je chercherais, ce serait de savoir quel est le niveau du prophétique qui est en train d'être exprimé. Maintenant, si la personne qui est en train de donner cette parole et un prophète mature et prouvé. Maintenant, la prochaine détermination, c'est de savoir est-ce qu'il donne cette parole dans le bon contexte? Est-ce que c'est une parole qui doit être entendue par tous? Ou bien est-ce que c'est une parole qui doit être donnée aux anciens et au leadership derrière des portes fermées? Maintenant, je ne parle pas si c'est juste ou si c'est faux. Je suis en train de parler de discerner le bon contexte pour la distribution de cette parole. Et je vais vous dire pourquoi ça c'est important. La plupart du temps, quand Dieu donne une parole dans un contexte général, ce n'est pas une parole qui est là pour changer toute l'Église. C'est souvent l'édification, l'exhortation et le confort. Et conforter. Donc le Seigneur peut dire, je t'aime. Et je fais ça au milieu de vous, oui Seigneur. Donc ça édifie, ça exhorte, ça réconforte. Mais ça, ce n'est pas le niveau d'un prophète. Parce que le prophète va maintenant traiter avec des endroits bien spécifiques de comment bâtir à l'intérieur d'une communauté. Maintenant, pour répondre à ta question et pousser ça plus loin, le leadership doit être capable de discerner est-ce que cette parole aurait dû être donnée en public ou en privé? Et ils doivent discerner quel est le niveau de cette parole ou bien quelles sont les intentions de cette parole. Maintenant, si cette parole a été conçue pour bouger toute l'Église vers un élan vers de l'avant, pour plus d'activité exacte dans le fait de bâtir, donc là, oui, le leadership a la responsabilité de prendre cette parole, de s'asseoir dans une réunion fermée, à huis clos, et de dire maintenant, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit à travers ce frère ou bien à travers cette sœur? Et là, nous n'avons pas un problème prophétique. Nous avons maintenant un problème de leadership. Parce que nous avons des leaders qui ne savent pas comment entendre, comprendre, et ensuite obéir. Parce que tu peux entendre du matin au soir sans vraiment comprendre. Donc là, tu as ouvert vraiment une grande porte. Donc je suis en train d'adresser ça de plusieurs angles, sur plusieurs angles. Donc si j'étais dans une église où semaine après semaine, qu'il y avait une parole qui est donnée pour une direction, on va dire, je vais reconstruire toutes les opérations prophétiques de cette église. Je dirais si, aux gens, si toi tu penses avoir reçu une parole de direction, viens d'abord me parler. S'il y a une parole d'édification, d'exhortation, de réconfort et que tu laisses ceci se faire, il n'y a pas de problème. Donc le leadership a la responsabilité de discerner ça. Mais la réalité, c'est que la plupart des leaders ne connaissent pas assez du prophétique pour savoir comment évaluer et juger une parole lorsqu'elle est donnée. Et la plupart des pasteurs n'ont jamais été formés dans ça. Et c'est pour ça que nous avons tout un secteur où nous équipons et nous formons en fait nos pasteurs. Donc le leadership doit être capable de discerner cette parole. Est-ce que c'est une parole sur laquelle on peut bâtir? Je ne dis pas que Dieu ne peut pas parler une parole ou bien déclarer une parole qui peut changer la communauté dans un contexte public. Non, ce n'est pas ça que je dis. Je vais vous donner un exemple. Et on a eu une conférence une fois dans ce réseau dont je faisais partie avant. Et on a amené un prophète vraiment reconnu. Et il a donné une parole en disant que Dieu va maintenant prendre cette communauté et va leur faire sortir d'un modèle de bénédiction vers un modèle de bâtir. Ça, c'était en 1993. Maintenant, le pasteur principal de ce ministère était un peu défensif par rapport à cette parole. Parce qu'ils avaient 600 églises, ils touchaient les nations, et à l'œil nu, ça ressemblait à quelqu'un qui avait beaucoup de succès. Et je me rappelle être assis dans une réunion de leadership, et il ne voulait même pas parler de cette parole. Et il y a certains d'entre nous qui étaient un peu plus jeunes et on a dit, mais attends, ça c'est une parole de Dieu. Et nous devons découvrir que voulait dire Dieu quand il a dit, je vous fais bouger d'une dimension de bénédiction vers une dimension de bâtir. Et ce qui est triste, c'est qu'ils ont justifié le fait qu'ils étaient en train de bâtir à cause de l'étendue de leur opération et de tout ce qu'ils étaient en train de faire. Et maintenant, quand je regarde en arrière, je vois en fait que ce réseau-là ne savait pas comment bâtir quoi que ce soit. Ils pouvaient former des prophètes, mais ils ne savaient pas comment bâtir des églises. Il n'y avait aucune grâce apostolique dans ce réseau. C'était seulement les prophètes. Et donc oui, des paroles comme ça peuvent être données et si cette parole avait été considérée par le leadership, ce ministère-là aurait pu être complètement différent et ne pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ils existent toujours, mais ils sont en train de tourner en rond dans le désert. C'est tout ce qu'ils font. Et ils ne savent pas comment rentrer dans les buts prophétiques de Dieu sur la terre aujourd'hui. Est-ce que ça aide un peu? Donc la plupart du temps, le problème n'est pas dans le fait de prophétiser. La gestion de la prophétie, c'est souvent la gestion de la prophétie. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'enseignement. Donc tout le monde peut se lever et dire n'importe quoi dans un contexte public. Et dans notre monde, ça ne se fait pas. Parce qu'on a formé tous nos gens à travers notre monde, dans plus de 95 nations, que tu sois noir ou blanc, ou peu importe la langue que tu parles, amharique, ou français, espagnol, ou anglais, ça n'existe pas dans notre monde. On n'a jamais ce genre de problème à traiter avec. C'est pour ça que je dis, ici, on a des leaders. Les leaders, rentrez à la maison. Et la première question que tu te poses, c'est ça. Quelle est la grâce apostolique avec laquelle je suis connecté qui me permet de bâtir mon église? Et si c'est une grâce apostolique, quel est le niveau de maturité? Et si c'est une grâce apostolique mature, automatiquement, il y aura aussi une grâce prophétique mature qui sera à ses côtés. Est-ce que ça a un sens? C'est vraiment un grand sujet, j'aimerais dire en parler un peu plus, mais on n'a pas assez de temps. Okay, je vais juste traduire d'abord ça. I have I may not be alone in this, but I have a difficult time distinguishing between the gift of the prophet and the ministry of the prophet. Mm-hmm. Okay. Tu peux continuer? So it's like, how do I know that the guy who just prophesied, is he a prophet or is he just a prophetic word? Because there's a lot of prophets that come to our churches and, you know, they say a lot of things. Une bonne question. Et cette question a été posée à plusieurs reprises. Et premièrement, il y a plusieurs choses qu'on peut regarder. C'est la voix du Saint-Esprit. Et il faut connaître ceux qui labourent au milieu de vous, qui travaillent au milieu de vous. Mais non, si tu as un contexte apostolique correct dans lequel tu vis, tu n'auras jamais besoin de t'inquiéter sur qui sont ces gens. Parce que dans un contexte apostolique, les gens sont envoyés, ils ne débarquent pas. Et donc, on n'a pas des prophètes dans notre monde qui appellent des pasteurs en disant « Hey, je suis là, ici, dans la ville, j'aimerais faire une réunion. » Et on n'a pas des pasteurs qui se disent « Ah, ça fait un moment qu'on n'a pas eu un ministère prophétique, je vais appeler tel ou tel prophète pour qu'il vienne amener le ministère prophétique. » Donc, ils savent, dans notre monde, qu'on a un secteur prophétique. Et c'est vraiment un monde robuste du prophétique. Donc, il peut faire comme Martin, il a fait. Donc, il m'appelle au téléphone, il m'écrit un email et il dit « Ah, je pense que le temps est venu pour une autre visite des prophètes. » Et il n'a pas besoin de se dire « Ah, est-ce qu'ils sont vraiment des vrais prophètes ou pas ou des faux prophètes ?» Parce qu'en fait, ton contexte, c'est ça qui détermine beaucoup de choix et de décisions que tu fais. Donc, je peux répondre à cette question en disant, il faut que tu regardes son arrière-plan, comment il traite sa femme, son mariage, etc. Je peux répondre en disant ces choses. Tu peux regarder aux fruits de son ministère. Really Est-ce qu'il a vraiment un historique prouvé qui montre qu'il est déjà allé à côté des pasteurs et qu'il les a aidés à bâtir leur communauté, par exemple? Ou bien est-ce que tu as juste fait appel à lui parce que tu sais qu'il a l'exactitude dans la parole prophétique? Maintenant, toutes ces choses que j'ai dit là sont vraies. Mais la plateforme la fondation sur laquelle tu commences, c'est d'où est-ce que je tire la ressource? C'est pour ça que je parle de l'importance de l'apostolique dans le temps et l'ère dans laquelle nous sommes. Parce que les gens n'avaient pas besoin de s'inquiéter par rapport à Silas. Parce qu'ils savaient que Silas voyageait avec Paul. Donc quand Paul les a laissés là, et qu'il est retourné à Antioche, ils n'ont pas eu besoin de dire, mais est-ce que ce gars, il est vraiment un prophète? Parce que son ministère avait déjà été validé par un apôtre. Et à travers la relation qu'ils avaient, cette question n'avait jamais besoin d'avoir lieu. Donc, d'une certaine manière, il ne faut jamais avoir besoin de poser cette question. Si tu es positionné dans le bon contexte. Maintenant, écoutez les gars, le jour d'être pasteur indépendant, c'est fini. Ça veut pas dire que tu ne peux pas avoir ta propre vision. Oui, tu peux l'avoir. Tu dois avoir ta propre expression du royaume dans ta région. Mais d'être un pasteur indépendant, qui n'est pas dans un contexte apostolique, peut-être ça va te faire mal, mais je veux t'aimer assez pour te dire la vérité. Tu ne seras pas pertinent par rapport à ce que Dieu est en train de faire à l'heure actuelle. Mais ça, c'était une bonne question. Parce que et il y a 15 ans en arrière, j'aurais dit, regarde son caractère, regarde son historique. Là, je t'aurais donné tout un point, tous des différents points sur une liste. Mais en fait, j'aurais oublié de mentionner l'importance du contexte apostolique. Et donc, c'est ce que l'apostolique fait. Ça permet aux prophètes de venir répondre à ce genre de questions d'une position beaucoup plus élevée. Donc, nos prophètes sont éprouvés. Nous connaissons leur mariage, nous connaissons leurs femmes, leur mari, et nous les amenons dans les nations, nous travaillons avec eux, et nous sommes en contact avec leur pasteur, comme ce gars-là derrière, Joseph Kamga. Salut Joseph. Je connais Joseph, mais je connais aussi son ancien titulaire, son pasteur. Et je sais que son pasteur ne l'aurait pas recommandé dans notre formation s'il n'avait pas une architecture correcte de sa vie. Et ça fait aussi 8 ou 9 ans que je connais Joseph. Et j'ai déjà fait le ministère avec lui à plusieurs reprises. Et ça, c'est un très bon être humain. Parce que ça, ta plus grande crainte. Est-ce que c'est un loup? Ou est-ce que c'est un vrai prophète? Et tu ne veux pas découvrir ça après l'avoir invité. C'est du genre, oups, j'ai fait une erreur. Ah, c'est un loup. Et dans notre monde, ça n'existe pas. Et Joseph vient juste de rentrer dans notre monde. Et ça va devenir de plus en plus apparent dans le futur. Tu ne vas jamais avoir un problème de ce genre. Nos bureaux sont toujours ouverts. Et si un de nos prophètes fait une erreur, et de temps, ils l'ont fait. Parce que de former les gens veut dire que tu leur donnes le droit de faire des erreurs. Mais c'est très facile de corriger ça. Tu appelles le pasteur. Parce que nous aimons ces pasteurs aussi ils nous aiment. C'est notre monde. Nous sommes en train de le bâtir ensemble. Ce n'est pas une compétition entre le prophète et le pasteur. Ces mentalités n'existent même pas dans un contexte apostolique. Donc nous sommes en train de tous poursuivre la même chose. Nous poursuivons tous la même chose, la maturité en Christ, équiper les saints pour l'œuvre du ministère. Et ça rend ton monde extrêmement sécurisé. Donc ces questions ne sont jamais posées dans notre monde, n'est-ce pas, Martin? Et voilà à quoi ressemble le fait de bâtir avec la grâce apostolique. C'est ça à quoi ressemble la bonne architecture. Et c'est ça que les pentecôtistes ne comprennent pas. C'est ça que les charismatiques ne comprennent pas. C'est ça que les baptistes ne comprennent pas. Ce sont des gens bien, mais ils vivent dans l'aveuglement. Parce que Dieu, il est allé de l'avant. Et ils vivent encore dans les dimensions de Dieu d'il y a 100 ans, il y a 50 ans, même 20 ans, mais ils ne vivent pas dans ce que Dieu est en train de faire à l'heure actuelle sur la terre. Mais à qui beaucoup est donné, beaucoup aussi est exigé. C'est pour ça qu'il ne peut pas juste garder ce qu'il a. C'est pour ça qu'il m'a invité pour venir à parler. Parce que que vous soyez au courant ou pas, il vous aime vraiment. Parce que tout ce que nous avons, nous voulons donner ça. Et tu ne peux jamais posséder quoi que ce soit à moins d'être prêt à le donner. Et nous avons vu des églises pillées et violées par soi-disant des prophètes. Et ce n'est pas comme ça que notre monde opère. C'était une bonne question. Ça ouvre aussi plusieurs autres sujets. C'est ce que nous voulons. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On a 3 minutes. Il y a quelqu'un qui a une pensée, une question, une observation? Est-ce que ça a un sens? Et combien de leaders se disent « Ah, je vais rentrer à la maison réfléchir à ça » Est-ce que ça va vous pousser à réfléchir encore un peu plus? Donc, ne jetez pas le prophétique par la fenêtre. Parce que si vous jetez le prophétique par la fenêtre, vous jetez aussi Christ. Parce qu'il était un apôtre, il était un prophète, il était un enseignant, il était un pasteur, il était aussi un évangéliste. Donc, juste parce qu'il y a des problèmes qui existent, ça ne veut pas dire qu'on doit tout jeter. Il faut être comme Apollos. Il faut avoir la faim pour les choses les plus excellentes. Et tout ça se passe lorsqu'il y a un bon contexte apostolique. Donc, j'espère que vous avez entendu ça. D'autres commentaires avant qu'on ne clôture? Quelque chose que vous voulez dire? Est-ce qu'il y a, vous avez pu retirer quelque chose de ça? Oui? Non? Est-ce que ça a eu un sens? Oui? Est-ce que je peux avoir un oui? Ah, on a un grand oui ici. Moi, j'aurais pu prendre un petit oui. C'était vraiment mon plaisir. On va juste élever la main. Père, je prie maintenant pour chaque leader ici présent. Père, qu'il puisse avoir ne serait-ce qu'une petite goutte de vérité qui est rentrée dans cette salle aujourd'hui. Que nous puissions prendre ça et rentrer à la maison et y réfléchir dessus. Et Saint-Esprit, je demande à ce que tu touches chaque cœur de chaque leader et que tu leur amènes dans une plus grande dimension capacité de gestion.